bonjour à chacun. J'étais très impressionné tout à l'heure quand Joe a dit ben voilà, c'est Ricardo qui va s'occuper des moyens, et un petit garçon au début qui a dit ouais, on l'a entendu. Donc du coup, je suis un petit peu déçu maintenant quand Joe a dit c'est Arnaud qui va apporter la. Ouais. Merci. Ouais. Merci. Voilà, ça c'est fait. Vous avez remarqué souvent, je commence mes prises de parole par une petite blague, mais en fait, la première raison de cette petite blague est pour me mettre à l'aise, moi, parce que même si j'ai l'habitude de prendre la parole, c'est toujours impressionnant de vous parler comme ça à tous. Voilà. J'ai choisi ce matin un texte que l'on connaît bien, si on est un petit peu familier avec la Bible, parce que dans... voilà, je vois des signes, je laisse faire la technique. Donc je disais que même... J'ai choisi ce matin donc un texte que l'on connaît bien. Vous allez finir par le savoir. Oui, voilà, ça y débute. Un texte qui figure dans toutes les Bibles, même celle des enfants. Hein, et s'il y a trois histoires des évangiles, c'est pas facile de parler avec un truc qui bouge. Si vous avez vu les Bibles des enfants avec trois histoires de l'Évangile, elle y est dedans. C'est l'histoire et la parabole de la brebis perdue, les brebis perdues et retrouvées. Voilà, et j'ai choisi, elle existe dans deux Évangiles, et j'ai choisi dans le passage de Luc au chapitre 15, versets 1 à 7. Et cette parabole, eh bien, est la première d'une série de trois paraboles qui traitent du même sujet. Et le sujet qui est traité ici est le retour à Dieu après un certain éloignement. Alors, il y a cette parabole de la brebis perdue. Ensuite, il y a une deuxième parabole qui est celle de la drachme, qui a été perdue aussi, où la maîtresse de maison eh bien, retourne la maison pour retrouver cette pièce. Et puis aussi, la troisième parabole qui traite toujours de l'amour du Père, qui accueille à nouveau son enfant avec le fils prodigue, dont d'ailleurs Patrice l'a évoqué tout à l'heure dans sa prière. Et j'aime bien ces textes que l'on connaît bien et que l'on croit peut-être tellement bien que connaître que lorsque l'on lit la Bible, eh bien, c'est des textes que l'on survole. Voilà, et j'aime bien, encore une fois, m'y atteler et réfléchir sur ces textes que l'on croit connaître. Alors je propose de le lire et on lira comme c'est affiché ici, versets 1 à 7. Tous les collecteurs des taxes et les pêcheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes maugraient. Il accueille des pêcheurs et il mange avec eux. Mais leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 moutons et qu'il en perde un, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celui qui est perdu, jusqu'à ce qu'il le retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvé, il le met sur ses épaules tout joyeux et de retour chez lui, il appelle ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement que pour 99 justes qui n'ont pas besoin d'un changement radical. Alors comme je l'ai dit, c'est un texte que l'on connaît bien. Et au fond, avant d'attaquer vraiment la parabole, je voudrais que l'on s'arrête quelques instants sur une phrase que l'on pourrait, là aussi, sur lequel on pourrait passer sans y faire attention, les pécheurs s'approchaient de Jésus. Et je trouve que ces quelques mots par lesquels commence ce texte, eh bien, sont éclairants sur la personnalité de Jésus, sur la relation qu'il savait instaurer avec les personnes qu'il rencontrait, sur la qualité de son accueil. Les pécheurs s'approchaient de lui. Ils n'avaient pas peur et ils osaient venir vers Jésus. Et au fond, je me suis demandé pourquoi les pécheurs osaient s'approcher de Jésus. Parce que j'aurais plutôt pensé eh bien, que les pécheurs, spontanément, auraient fui Jésus. Hein, nous ne voulons pas justement que Jésus voie leur péché, pointe du doigt le péché. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe, pas du tout. Ici, les pécheurs s'approchent de lui pour l'entendre. Et qu'est-ce qu'il y avait chez Jésus qui comme ça, eh bien, attirait les pécheurs? Alors c'est vrai que ça ne se passe pas toujours comme ça dans les évangiles. Il y a des passages où Jésus est rejeté, où on lui demande de partir, jusqu'à bien sûr où le rejet suprême au moment de la crucifixion. Mais ici, dans ce passage, eh bien, les pécheurs osent s'approcher de Jésus pour l'entendre. Et la manière dont Luc, qui est l'oncle auteur de l'évangile, appelle les hommes et les femmes là, qui écoutent Jésus, je trouve que c'est parlant aussi. Il les appelle les pécheurs. vous voyez, dans les deux premiers versets, au fond, il y a deux catégories de personnes. Il y a les pharisiens et les scribes, d'un côté, et puis il y a les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, d'un autre côté. Et l'évangéliste nous présente les choses comme s'il y avait justement que ces deux catégories. Hein, comme si, là aussi, les pharisiens n'étaient pas pêcheurs, puisqu'il y a les pharisiens d'un côté et les pêcheurs de l'autre. Et c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Les pharisiens sont tout autant pêcheurs que les personnes que Luc désigne comme étant les pêcheurs. Les pharisiens avaient simplement une meilleure connaissance de la loi de Dieu. Alors pourquoi, au fond, ici, Luc fait cette distinction? Les pêcheurs d'un côté, les pharisiens de l'autre. D'abord parce que les uns, les pêcheurs, eh bien, voulaient s'approcher de Jésus et avaient envie de l'entendre. Alors que les pharisiens, eux, à l'inverse, maugraient, hein, qui en mille est dit dans ma version, enfin râlaient parce que justement Jésus mangeait avec les pêcheurs. Ça, c'est une première distinction. Mais je crois que la distinction ça ne s'arrête pas là. Elle se porte aussi ailleurs. Je crois qu'elle renvoie aussi à la prise de conscience du péché. Les pharisiens étaient des pêcheurs comme n'importe qui. Mais eux n'avaient pas conscience de leur péché. Et je pense que là, dans ce passage, eh bien, on pourrait remplacer le terme de pécheur par ceux qui ont conscience de leur péché. Et ça, c'est une distinction qui est importante. Parce que je crois, justement, et je comprends de ce texte, eh bien, que la première motivation pour s'approcher de Jésus est d'avoir conscience de son péché. Sinon, on n'a pas forcément envie de s'approcher de Jésus. Les pécheurs, les collecteurs d'impôts, je veux dire les pêcheurs pour aller plus vite, hein, eh bien, étaient conscients qu'ils vivaient séparés de Dieu. Et ils étaient aussi conscients que ce n'était pas une situation normale. Et ils ont dû comprendre eh bien, que Jésus pouvait changer cette situation parce qu'il était le Fils de Dieu. Et la bonne nouvelle, eh bien, ce qui était vrai au temps de Jésus eh bien, est vrai aujourd'hui. Hein, nous pouvons, nous aussi, nous approcher de Jésus et nous réconcilier avec le Père. Si nous sommes conscients de notre péché, eh bien ça nous motive aussi pour nous approcher de Jésus, pour qu'il nous débarrasse de notre péché et encore une fois nous réconcilier avec le Père. Mais je crois qu'avoir conscience de son péché ne suffit pas. Il faut encore oser aller vers Jésus, oser s'approcher de lui. Et ça, je trouve que ce n'est pas forcément évident non plus. On peut se sentir pécheur et pas avoir envie et pas oser s'approcher de Jésus qui, lui, était parfait. Et j'ai recensé comme ça quelques-unes des raisons pour lesquelles eh bien, Jésus attirait les pécheurs, pour lesquelles les pécheurs s'approchaient de Jésus, hein, sans que ce soit exhaustif, mais voilà, quelques raisons. Et si moi je m'identifie justement aux pécheurs, ce qui ne demande pas un gros effort d'imagination, hein, si j'ose m'approcher de Jésus, c'est parce que je ne me sens pas jugé par lui. Et ça, je crois que c'est vraiment une notion importante. Il m'accueille et il m'écoute tel que je suis. Et j'ai mis Jean 8 ici. Jean 8, c'est l'histoire de la femme adultère. Alors, je ne vais pas le développer, mais voilà, vous pourrez regarder si vous voulez plus tard. Vous savez, la femme adultère, c'est la femme que les pharisiens voulaient lapider. Et c'est là où Jésus lui dit, dit que celui qui n'a jamais péché, eh bien, lui jette la première pierre. Et là, ici, Jésus ne le condamne pas. Il ne juge pas. Il lui dit simplement, je ne te condamne pas, mais change ta vie. Et vous voyez, je crois que c'est une notion qui est importante. Jésus ne juge pas. Hein, et il accueille le pécheur tel qu'il est. Et ça, c'est la première des raisons, je crois, pour lesquelles eh bien, les pécheurs osaient s'approcher de Jésus. Il ne me juge pas, mais pourtant, il connaît mon péché. Et ça ne sert à rien que je cherche à lui dissimuler. Il me connaît. Il sait qui je suis. Il sait quel est mon péché. Et je pense aussi là à une autre rencontre que Jésus a faite avec une femme qui est ici, donc dans Jean 4, qui est la Samaritaine. Vous savez, c'est cet épisode-là où Jésus lui dit « Oui, tu as eu cinq maris, celui avec lequel tu vis aujourd'hui n'est pas ton mari. » Vous voyez à quel point eh bien, Jésus connaissait cette femme. Et je trouve que c'est un bon exemple justement pour avoir en tête que Jésus nous connaît. Et ça, c'est une belle deuxième raison aussi pour s'approcher de Jésus. Jésus ne me juge pas et Jésus me connaît. La troisième raison pour laququelle les pécheurs pouvaient oser s'approcher de Jésus, ou je peux, moi, avoir envie de m'approcher de Jésus, parce que ce qu'il disait eh bien, était en cohérence avec sa façon de vivre, sa façon d'être. Et ça lui donnait une grande force, une grande autorité à son témoignage. Et ce qu'il enseignait, il l'enseignait justement avec autorité. Et son enseignement, justement, était rendu crédible parce que ses actes étaient en cohérence avec ce qu'il disait. Voilà, là aussi j'ai mis cette référence-là que je ne développe pas, mais ça renvoie à ça, à l'autorité justement, à l'autorité de Jésus. Et pour terminer, j'ai gardé en fait, je crois, la meilleure des raisons pour laquelle on peut oser s'approcher de Jésus pour la fin, la quatrième raison, c'est qu'on se rend compte qu'en lisant les évangiles, eh bien que la première des motivations pour que Jésus, sa première motivation pour qu'il s'intéresse aux personnes, c'est parce qu'il nous aime et qu'il nous aime d'un amour infini. Et c'est la raison pour laquelle il mange justement avec les pêcheurs et les collecteurs d'impôts. Il nous aime pleinement. Vous savez, il y a un candidat qui a dit « Moi, j'aime les gens ». Ça vous rappelle quelque chose? Ben voilà, je crois vraiment, on peut dire ça pleinement de Jésus. Il aime vraiment les gens. Il nous aime, encore une fois, d'un amour infini. Et ce sont tous ces points-là qui vont être développés dans la parabole de la brebis perdue. Et vous voyez, ces quatre notions-là, ces quatre points-là, eh bien, sont importants à avoir en tête et qui nous permettent d'oser d'aller voir, de nous approcher de Jésus et d'oser l'entendre. Et c'est aussi des points que je dois avoir en tête, moi, eh bien, quand je parle de Dieu aux personnes qui m'entourent, lorsque je partage l'Évangile. Les pécheurs, est-ce que les pécheurs ont envie d'entendre ce que je dis? Dis plus simplement, est-ce que les personnes qui m'entourent, les personnes à qui j'annonce l'Évangile, eh bien, est-ce qu'ils ont envie d'entendre l'Évangile? Ou est-ce que je la rends intéressant? Est-ce que je fais preuve de bienveillance lorsque je rencontre une personne qui ne connaît pas Dieu? Est-ce que je réussis, moi, à ne pas tomber dans le jugement? C'est très difficile, ça, hein, d'accueillir le pécheur tel qu'il est sans tomber justement dans le jugement. Est-ce que je m'intéresse d'abord à la personne qui est en face de moi, hein, plutôt que de voir simplement une personne comme étant un potentiel d'évangélisation, hein, comme Jésus s'intéressait d'abord aux personnes? Est-ce que je manifeste de l'amour dans les mots que j'utilise et la façon aussi dont je les utilise, ces mots, la manière dont je dis les choses? Et encore une fois, est-ce que je suis cohérent entre ce que je dis et la façon dont je vis? Est-ce que mon message est bien à cette autorité-là, cette crédibilité de mettre mes actes en cohérence avec mes paroles? Et c'est toujours une grande question quand j'ai la responsabilité qui est portée par chacun d'entre nous d'annoncer l'Évangile. Est-ce que mes actes sont cohérents avec ce que je dis? Alors, pour terminer sur cette partie, je trouve que ça nous amène à nous poser deux questions. D'une part, si je suis justement non converti, si je ne fais pas partie du troupeau, pour reprendre l'image de la parabole, est-ce que j'ai envie justement de m'approcher de ce Jésus qui m'aime? Ça, c'est la première des questions que j'ai à me poser. Et ensuite, la deuxième question que j'ai à me poser, eh bien, lorsque je suis chrétien et que je partage l'Évangile, est-ce que je donne envie de suivre Jésus lorsque je partage justement le message de l'Évangile? Voilà, c'est un peu un long préambule que je voulais poser avant de nous attaquer pleinement à la parabole. Et je vous propose justement de réfléchir à la nature que l'amour, que Christ, la nature que Christ, je vais arriver, j'ai dit tous les mots, mais la nature de l'amour que Christ nous porte. C'est bon? Voilà. Parce que bien sûr, il est le berger de la parabole et puis nous sommes les brebis. Alors si on revient à la parabole, versets 3 et 4, ça part mal. Ça part mal, cette histoire. Parce que le berger qui nous est décrit ici, eh bien, abandonne les 99 brebis pour aller en chercher une seule qui, elle, était perdue. C'est quand même un choix curieux, hein. Et si j'étais responsable justement de ce berger, eh bien, je lui enlève tout de suite la responsabilité du troupeau. C'est pour être vu comme un manque de sagesse. Prendre le risque de laisser seul 99 brebis pour partir à la recherche d'une seule brebis. En plus, il n'est même pas sûr de la retrouver, au fond. Il nous dit qu'elle est partie dans le désert. Voilà. Et puis, sans oublier en plus que si la brebis s'est perdue, c'est un peu de sa faute quand même. Donc, franchement, le berger, il ne faut pas le garder. Parce qu'il abandonne justement le troupeau qui est composé de 99 brebis. Et j'imagine que cette image-là du troupeau devait marquer les gens de l'époque de Jésus encore plus fortement que nous. Parce que ce troupeau-là devait avoir une grande valeur. Hein, et ça devait marquer plus les personnes de l'époque de Jésus que nous aujourd'hui qui sont éloignés de cette culture-là. Hein, donc c'est important d'avoir en tête la valeur que devait représenter le troupeau. Et quand on a en tête cette valeur que représentait le troupeau, eh bien, je trouve que l'on mesure davantage la prise de risque du berger de laisser les 99 brebis pour aller en chercher une seule. Parce qu'il y a une prise de risque, parce que laisser 99 brebis dans le désert, peut-être à la merci des prédateurs, prendre le risque que d'autres brebis se perdent en l'absence du berger, ce sont des choix étonnants. Et encore une fois, si nous avions été, nous, ce berger, je pense que nous serions dit, tant pis pour la brebis perdue, elle n'avait qu'à faire attention, cette brebis, et il vaut mieux que je reste avec les 99. Ça aurait été une approche sans doute plus sage et plus rationnelle. Et bien sûr, Jésus ne raisonne pas comme nous. C'est pas le berger de cette histoire-là n'a pas eu ce raisonnement-là, rationnel justement. Parce que sa démarche ne lui a pas été dictée par la valeur marchande des brebis, la valeur marchande du troupeau, mais par, justement par l'amour. Et sa priorité est devenue justement la brebis perdue. Et vous savez pourquoi? Parce que cette brebis-là, c'est elle qui avait particulièrement besoin du berger. Et elle avait besoin de lui parce qu'elle ne pouvait pas retrouver le troupeau seule. Et si on se place du point de vue de la brebis perdue, elle a dû particulièrement apprécier que le berger laisse les 99 autres pour venir la chercher, elle. Ça a dû être un sacré soulagement pour elle, eh bien, de voir le berger arriver alors qu'elle était perdue dans le désert. Mais si je me place du côté du troupeau, des 99 brebis, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête à elle? Quelle aurait pu être leur réaction? Alors, faut bien sûr pas pousser trop loin l'interprétation et je ne vais pas faire parler les brebis ou les moutons. Mais tout de même, on peut quand même imaginer ou chercher à comprendre leur réaction. Parce que, au fond, le berger, il aurait pu les mettre à l'abri, les brebis, avant de partir. Les mettre dans un endroit, un point d'eau, les confier à un autre berger. Mais non, rien du tout. Il les laisse tomber et il va tout de suite voir la brebis qui est perdue. Donc, si je fais de la parabole fiction, si je puis dire, comment elles auraient pu réagir, les brebis? Certaines ont pu penser, mais il nous a abandonnés. Tu parles d'un berger. Il nous laisse seuls, en plein désert. D'autres ont peut-être manifesté de la peur. Peut-être que d'autres qui étaient plus optimistes eh bien, se sont dit « t'es content que le berger aille chercher la brebis perdue ?» parce qu'au fond, c'était l'une des leurs de ces brebis. Et avec le recul, quelle joie au fond, même si je reste dans le troupeau, de savoir que le berger est capable comme ça d'aller chercher cette brebis qui est perdue. Parce que ça peut m'arriver à moi un jour de quitter le troupeau, d'être perdu. Et je serais heureux alors que le berger vienne me chercher. Et quand je vois ça, eh bien, j'ai davantage envie de faire confiance à mon berger. Quand je me rends compte qu'il est capable de ne pas m'abandonner et qu'il ne m'abandonnera jamais. Est-ce que ça nous arrive d'être dans la peau du troupeau, des 99 brebis, si je puis dire, d'avoir le sentiment d'être dans le désert, sans berger? Alors bon, encore une fois, il ne faut pas pousser trop loin l'interprétation, parce qu'on ne peut pas dire que le Seigneur n'est pas là, le Seigneur est toujours avec nous, il nous accompagne, il n'est pas limité dans le temps ou dans l'espace, il est toujours avec nous. Mais parfois, on peut ressentir justement cette absence du berger. Je pense que le fait d'être dans le troupeau et d'être resté dans le troupeau a dû rassurer les brebis. Un peu comme nous, au fond, avec la présence de nos frères et nos sœurs qui nous entourent. Parce que nous pouvons assimiler justement le troupeau à l'Église. Les moutons, peut-être que les moutons du troupeau, les plus aguerris, eh bien, ont pu encourager les plus inquiètes. Et même si les 99 ont pu se sentir seuls sans le berger, la brebis qui devait se sentir particulièrement seule, eh bien, sans berger, était la brebis perdue. Mais quel choix bizarre quand même de le laisser comme ça. C'est comme si je vous disais ce matin, au fond, écoutez, je ne vais pas faire de prédication, je vais aller voir quelqu'un qui a besoin d'entendre l'Évangile. Ça vous paraît très bizarre? Mais c'est un peu ça, et vous laissez en autonomie. Ce serait un peu ça, c'est un peu ça la démarche qu'a eu le berger. Donc nous sommes la brebis de la parabole, dans le troupeau, si nous marchons avec Dieu, ou nous sommes, pouvons être la brebis perdue, si nous en éloignons. Et nous pouvons aussi être dans la position du berger. Alors bien sûr, le berger parfait, le berger en chef, si je puis dire, est Jésus. Mais en tant que chrétien, à partir du moment où je suis engagé dans ma foi, où j'ai un peu de responsabilité dans l'Église, eh bien, j'ai aussi ce rôle de berger, plus ou moins marqué en fonction de mon engagement. Et je dois m'efforcer, justement, à ce qu'aucune brebis ne se perde, même si, bien sûr, je ne maîtrise pas tout. Et nous avons besoin de sagesse pour que le Seigneur nous montre de qui prendre soin. De sagesse et de courage aussi. Parce qu'au fond, ça aurait été beaucoup plus simple pour le berger de rester avec les 99 brebis. De ne pas prendre ce risque-là d'aller chercher la brebis qui était perdue. J'ai aussi à assumer en tant que chrétien ce rôle-là. Nous sommes jusqu'à maintenant intéressés aux 99 brebis qui composent le troupeau, et maintenant je vous propose de nous intéresser à la centième des brebis. Et il y a une phrase qui est superbe, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et je trouve que cette petite phrase, eh bien, en dit long sur l'intérêt que le berger manifeste aux brebis. Et on voit ici sa persévérance, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et si je me compare, si je me mets dans la peau de la brebis perdue, eh bien, j'aimerais bien, moi, que mon berger me cherche jusqu'à temps qu'il me retrouve. Et cela renforcerait la confiance que j'ai dans le berger, ce qui est le cas. Et je sais que si je suis perdu, eh bien, mon berger fera tout pour me retrouver. Il m'aime au point de me chercher jusqu'à ce qu'il me retrouve. Et bien sûr, là aussi, c'est une manifestation de l'amour du berger. Il ne lâche pas. Combien de temps ça peut prendre? C'est grand, un désert. Eh bien, ça peut prendre le temps qu'il faudra pour que le berger la retrouve. Et là encore, si je m'identifie au berger, eh bien, c'est pour moi une leçon de persévérance. La persévérance pour annoncer l'Évangile, à prier pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré le berger. Prier pour un non-converti jusqu'à ce qu'il entre dans le troupeau, c'est-à-dire qu'il se convertisse. Et ça peut prendre du temps. Peut-être même que je peux ne pas en voir le résultat, d'ailleurs. Et même si, justement, si je ne vois pas ce résultat, eh bien, je peux me décourager. Et ce texte est un encouragement, au contraire, à la persévérance, comme le berger l'a fait avec les brebis. Il est persévérant au point de chercher la brebis jusqu'à ce qu'il la retrouve. À nous aussi, dans notre situation de berger, eh bien, de prier ou d'agir pour que les personnes qui ne connaissent pas Christ, eh bien, puissent le rencontrer, rencontrer le berger. Autre passage aussi qui est très beau, qui est, je trouve, émouvant, et centrons-nous sur cette phrase, il la met sur ses épaules, tout joyeux. Je trouve que c'est une belle image. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met sur ses épaules. C'est vrai que le berger n'était pas obligé de la porter, la brebis. Il pouvait simplement la conduire vers le reste du troupeau, lui montrer la direction, la ferme, la laisser marcher. Après tout, là où elle est aujourd'hui, elle y est allée toute seule, en marchant. Et le berger aurait pu aussi la conduire en marchant. Ça lui aurait fait un peu les pieds, d'ailleurs, à la brebis. Ça aurait été une bonne punition. Elle l'aurait bien mérité, après tout. Ben, puisque c'est comme ça, tiens, ben, tu rentres à pied, toute seule. Non, le berger ne fonctionne pas comme ça. Il n'est pas du tout dans cette démarche. Il la porte. Il n'y a aucune notion de punition, justement, avec le berger. Il est juste heureux d'avoir retrouvé la brebis. Et cela aussi, c'est une autre caractéristique de l'amour du berger. Il la porte pour qu'elle puisse revenir plus vite vers le troupeau. Il la porte pour l'épargner, justement, physiquement. Il la porte parce qu'il veut ressentir sa présence. Il la porte parce qu'il veut manifester de l'amour. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met sur ses épaules et il ne lui dit pas « Mais t'étais où? Pourquoi t'es parti? Tu as vu tout ce qu'il a fallu que je fasse pour te retrouver? Laisser les 99, toute cette marche ?» Non, il ne dit rien. Il est juste content. Juste heureux de la retrouver. Et je crois que là aussi, on peut y lire l'absence de jugement de la part du berger. Il est heureux parce qu'il était inquiet pour elle. Et regardez le verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement que pour 99 justes qui n'ont pas besoin d'un changement radical. C'est un verset étonnant. C'est un verset qui même peut sembler injuste. Comme ça a été le cas pour le fils prodigue, qu'on a évoqué aussi tout à l'heure dans la prière. Regardez-le au verset 29 du même chapitre. Le fils prodigue qui rentre après avoir dépensé l'argent du père, son héritage, et le frère râle. Alors le frère lui dit à son père, alors il répondit à son père, « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Quand on lit ce passage, on le condamne, c'est vrai, mais c'est une réaction, je trouve, qui est tellement humaine. C'est comme la naissance d'un nouvel enfant dans une famille. Le bébé arrive, la famille se réjouit de cette nouvelle naissance, et les autres enfants, les aînés, eh bien, peuvent ressentir de la jalousie, parce que toute l'attention, toute la joie, eh bien, se concentre sur ce nouveau-né. Et pour eux, pour les frères ou les sœurs aînés, franchement, il n'a rien d'intéressant, ce bébé. Il ne parle pas, on ne peut pas jouer avec. Et pourquoi les parents se concentrent comme ça sur le bébé, et pourquoi il y a tant de joie? Mais les premiers-nés, eh bien, oublient qu'à leur naissance, leurs parents ont ressenti la même joie pour eux que pour ce nouveau-né. Et le berger qu'est Jésus a ressenti de la joie pour chacune des brebis qui composent le troupeau. Parce que le troupeau, il est composé que de brebis perdues. Nous ne naissons pas dans le troupeau, mais c'est le berger qui l'a composé en venant nous chercher, chacun d'entre nous. Nous avons intégré le troupeau par la grâce de Dieu, qui a envoyé son fils, le berger, justement, nous chercher. Et chacun de nous a été cette brebis perdue que le berger est venu chercher. Et il y a eu dans la joie dans le ciel pour chacun d'entre nous. À chaque fois que tous sommes présents ici, eh bien, lorsque nous avons intégré le troupeau, à un moment donné, eh bien, il y a eu de la joie dans le ciel. Il y a un autre cas de figure que je voudrais aborder avant de terminer. Nous pouvons, après avoir fait partie du troupeau, avoir fait partie de l'Église, eh bien nous en éloigner, comme cette brebis de la parabole. Nous pouvons quitter l'Église, aller voir ailleurs. Et si cela nous arrive, et je crois que voilà, c'est un moment, ça peut nous arriver à chacun d'entre nous, personne, je crois, est à l'abri. Sachons que le berger, eh bien, nous cherchera jusqu'à temps qu'il nous trouve et qu'il y aura toujours une place pour nous dans le troupeau. C'est un beau chiffre 100, 100 brebis. Un chiffre rond, 99. C'est pas terrible. Et quand on dit 99, on sent qu'il manque quelque chose. Quand on dit 99, juste en disant ça, on dit c'est dommage, à un près, on arrivait à 100. Hein, on sent qu'en disant 99, il manque quelque chose. Eh bien, 99, quand le troupeau était composé de 99 brebis, eh bien, la brebis perdue manquait au troupeau. Comme lorsque l'un de nous quitte l'Église, il manque au reste du troupeau. Et à nous aussi, nous qui composons, au fond, les 99, là, qui composons le troupeau, les présents, si je puis dire, à nous de savoir accueillir avec délicatesse ceux qui reviennent dans l'Église. Vous savez, quand on voit quelqu'un revenir dans l'Église, moi, je retiens toujours une phrase. « Ah, bah tiens, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. » Ouais, ça, je trouve que ça serait un manque flagrant de délicatesse. Donc, à nous de savoir accueillir les brebis qui reviennent dans le troupeau. Voilà. En conclusion, j'ai commencé la prédication en me demandant pourquoi les pécheurs s'approchaient pour entendre Jésus. Et je crois qu'après après ce passage, eh bien, les réponses s'éclairent. Parce qu'ils avaient conscience qu'ils étaient cette brebis perdue, éloignée du troupeau, et que Jésus pouvait justement les réconcilier avec Dieu le Père et les intégrer dans le troupeau. Et ils avaient aussi conscience que la première motivation du berger était l'amour. Et en synthèse, je voudrais qu'on revienne sur les caractéristiques de l'amour, justement, que Jésus nous porte. En cas de problème, nous devenons sa priorité. Mais surtout, l'amour que Dieu nous porte est tellement important qu'il est capable de prendre des risques. L'amour que Dieu nous porte est tellement important qu'il est capable de prendre des risques. Le risque que le berger a pris pour lui, pour le reste du troupeau, en quittant justement les 99 brebis et en allant chercher la brebis perdue. Mais le risque suprême que Dieu a pris, eh bien, c'est d'envoyer son fils Jésus sur la croix. Parce qu'il prenait le risque eh bien, que les hommes ne répondent pas à son invitation. Et ça, c'est une belle preuve d'amour aussi de Dieu. Prendre le risque que les hommes ne répondent pas à son invitation. Et il ne cesse de nous inviter justement à rejoindre le troupeau, à rejoindre son peuple. Et son invitation est valable toute notre vie, car il nous cherche jusqu'à temps qu'il nous trouve, et à nous de répondre justement à son invitation. Et enfin, souvenons-nous de la joie que nous avons provoquée au ciel lorsque nous avons répondu justement à l'appel, lorsque nous avons dit oui à Jésus. Et pour terminer, je voudrais terminer par deux versets, justement, une autre histoire de berger dans Jean 10. « C'est moi qui suis le berger, nous dit Jésus. Je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. » Comme le Père me connaît. Et comme moi, je connais le Père, je me défais de ma vie pour mes brebis, pour mes moutons. Amen.